Bonjour Romain Cornet.
Bonjour.
Alors la semaine dernière, vous receviez une représentante du Parti démocrate américain. Aujourd'hui, votre invité est un supporter de Donald Trump. Bonjour Christian de Foulois.
Bonjour.
Monsieur de Foulois, bonjour. Vous avez été président, Pierre-Yves le disait, des Républicains à l'étranger, les Republicans Abroad. Aujourd'hui, c'est une organisation qui a été dissoute il y a 3 ans. Vous, à titre personnel, vous restez militant républicain, engagé en faveur de Donald Trump. Oui. Et vous nous direz pourquoi vous pensez que Donald Trump ferait un bon président. Mais d'abord, votre choix musical, c'est...
We are the champions.
Eh bien, je me demande un peu quel est le message caché derrière ça. On écoute.
I paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through.
And I need to go home.
Queen, sans doute sur la première avec We Are The Champions. C'était le choix musical de notre invité Christian de Foulois, supporter de Donald Trump et ancien président des Républicains à l'étranger. Il répondra aux questions de Romain Cornet dans quelques instants. Alors pour l'heure, voici votre rappel des titres. Il est 7h42. Un Espagnol à la tête des Diables Rouges. Le choix de l'Union Belge de foot s'est porté hier soir sur Roberto Martinez, longtemps entraîneur en première ligue anglaise. Un mort et plusieurs blessés dans une attaque au couteau dans le centre de Londres. Le forcené a été arrêté. Il souffrirait de problèmes mentaux. Et puis, sale temps pour les moissons. La pluie et le peu de soleil ont entamé la production de céréales. Une mauvaise récolte à laquelle s'ajoute une baisse de prix. Bon réveil avec nous. Romain Cornet, c'est à vous.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Christian de Foulois, il faut bien l'admettre, Donald Trump a une faculté hors norme de résister à toutes les polémiques, mais quand même, ce fut une semaine plutôt rude pour le candidat républicain qui soulève des critiques de plus en plus audibles au sein même du parti républicain. Le député Richard Hanna de New York ayant été jusqu'à affirmer qu'il voterait Clinton. Alors vous avez commencé avec We Are The Champion, Trump c'est toujours votre champion.
Absolument, je pense que on sera surpris par ce qui va se passer entre maintenant et puis le 8 novembre, il y a encore 99 jours, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des rebondissements aussi bien du côté de M. Trump que du côté de Hillary Clinton.
Mais quand même, il multiplie un peu les polémiques. Est-ce qu'il ne manque pas de prudence ?
Écoutez, il y a des polémiques, il y en a eu tout au long des primaires. C'est pas nouveau. Le fait que certains des ténors du parti, comme les Bush, comme les John McCain, comme les Mitt Romney, ne se soient même pas déplacés à Cleveland, n'a rien
à la convention républicaine.
Oui, à la convention républicaine, n'a rien de d'étonnant. Mm. Je crois qu'il est en train de briser quelque chose au sein du parti. Vous voyez, c'est un homme qui a réussi à amasser au cours des primaires 14 millions de lecteurs, soit beaucoup plus que ne l'a fait M. Bush avec 12 millions, ou que McCain lorsqu'il s'est présenté, ou Romney avec 10 millions. Donc quand on passe de 10 à 14 millions, c'est 4 millions de plus qui sont venus vers lui.
Mais les relations avec l'establishment, ça vous nous dites, c'est pas nouveau que c'est tendu, c'est pas nouveau qu'avec George Bush, etc., ils ne sont pas sur la même ligne.
Non, on passe d'une époque de ce que j'appellerais les néoconservateurs, et quand même, il faut le souligner, parmi ces néoconservateurs, on a M. Dick Cheney, qui est l'ancien vice-président des États-Unis, que j'ai rencontré avec des députés européens d'ailleurs, et qui a lui-même soutient Trump. Donc, vous savez, je crois que tout ça, ça va se... je crois que ce qui se passe, c'est qu'on a un narratif, une narration des médias qui n'est pas trop en faveur de Trump.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup du côté des Républicains, c'est que les médias sont à peu près tous de gauche. C'est ce qu'on
entend.
Non, je ne
dirais pas qu'ils sont de gauche, mais qu'ils sont biais, qu'ils sont beaucoup
biaisés.
Plus... Oui, ils sont biaisés et beaucoup plus en faveur de Hillary Clinton qu'ils ne le sont pas à l'égard de Trump.
Pourtant, en temps d'antenne, ils parlent beaucoup de Trump. Hein.
Oui, mais ils le découvrent en mal.
Alors, bon, les critiques s'étaient quand même tues au sein des cadres du Parti républicain, parce que voilà, effectivement, il s'est incliné devant le résultat des primaires. Cependant, ces critiques, elles reviennent après des critiques de Donald Trump à l'égard des parents du soldat Umayan Khan, qui est en Irak, et dont le père avait critiqué, pour resituer le contexte, le père avait critiqué Donald Trump lors de la convention du Parti démocrate.
La réplique de Donald Trump
est très mal passée, parce qu'aux États-Unis, on ne touche pas aux soldats tombés au combat.
Pendant tout ce temps-là, c'est ça qui me désole un petit peu, c'est que même avec tout le respect que l'on doit avoir à l'égard de gens, de trésors, que nous appelons treasures en anglais, de gens qui ont donné leur vie pour la patrie, dans le même temps, est-ce qu'on n'a pas d'autres problématiques, d'autres grandes questions dont on doit débattre? Et moi, je crois que c'est ce temps qui est important. Pas, bien sûr, ce soldat qui est mort, c'est tragique il y a beaucoup de douleur, mais il y a d'autres questions qui sont importantes.
Oui, mais cependant, sur le plan médiatique, elle n'occupe pas l'avant-scène. Maintenant, le New York Times dit que Donald Trump aurait un peu louvoyé pour éviter de servir dans l'armée au Vietnam. On voit bien que ça va prendre de l'ampleur. Et ces critiques au sein du Parti républicain, quand on a des gens comme John McCain, Chris Christie, Paul Ryan, qui sont quand même des figures de premier plan du parti, qui prennent leur distance, est-ce que vous ne craignez pas pour l'unité du Parti républicain ?
Non, pas du tout. De toute façon, je vois pas le parti va se mettre derrière Trump. Je vois pas quelqu'un arriver en disant bon, on va répudier Trump et puis on va mettre quelqu'un à la place, un genre de Mitt Romney ou autre personnage. Je pense que dans la majorité, les Républicains vont se rallier derrière Trump. Je crois que les conseillers de M. Trump, à commencer par son directeur de campagne, etc., vont essayer de faire en sorte qu'il soit peut-être moins abrupt, c'est le mot, de façon à pouvoir définir une stratégie. C'est difficile de définir une stratégie lorsque, de jour en jour, la stratégie, les objectifs changent, vous voyez ? Mais ce faisant, je pense que je crois qu'il va y avoir un adoucissement, c'est ce qui va se passer.
Pour l'instant, en tout cas, c'est pas vraiment arrondir les angles qu'il fait, puisqu'il a dit qu'il ne soutiendrait pas les candidatures de Paul Ryan à sa réélection au poste de président de la Chambre,
mais
ni de John
McCain.
Il vient
de dire que je sais, parce que le chairman du Republican National Committee du parti était très fâché, puisqu'il vient de Wisconsin et c'est un ami de Paul Ryan. Mais je crois que hier, il s'est exprimé à Daytona Beach. J'ai pas les dernières informations. Et apparemment, il venait de donner son appui à Paul Ryan. OK?
François Hollande dit que les excès de Donald Trump lui donnent la nausée.
Oui, ça, c'est complètement ridicule. Peut-être. C'est ridicule dans le sens suivant. C'est encore, de mon point de vue, c'est une erreur. Et pourquoi c'est une erreur? C'est parce qu'il a l'impression que Donald Trump, s'il lui donnait un pouvoir considérable, va faire en sorte que tout le monde va se tourner vers l'extrême droite. Vous savez, les problématiques en Europe, telles qu'on les voit, mais ça fait comme je suis résident ici en Belgique depuis des années, c'est le chômage, c'est l'immigration, c'est le terrorisme. Donc, c'est les mêmes choses qu'aux États-Unis. Pour un président qui ne sera certainement pas réélu, je ne souhaite pas pour François la France, Hollande. François Hollande, oui, de faire ce genre de déclarations, c'est pas très habile.
Vous avez listé sur votre blog toutes les personnalités politiques en Europe qui soutiennent Donald Trump. Ben, y a Viktor Orban, le très à droite président hongrois.
Oui.
Et puis il y a beaucoup de gens d'extrême droite.
Oui, c'est exact.
Est-ce que Donald Trump est un populiste ou quelqu'un d'extrême droite?
C'est un peu un amalgame ici. Parce que d'abord, il a été traité de tous les noms. Quand vous avez Der Spiegel, le magazine allemand qui dit l'homme le plus dangereux du monde, où on l'a traité d'un nouveau Hitler, on l'a traité de Mussolini, on l'a traité de tous les noms. On l'a traité de raciste, d'exos, de xénophobe. Il a eu tous les labels. Je crois que ça va aller un peu trop loin. Maintenant, dans la mesure où il est nationaliste, où il est patriote, dans la mesure où il ne veut pas d'hégémonie américaine. Oui. Il veut les États-Unis.
Il est moins interventionniste.
Oui,
c'est pas
moins
lui qui
interventionniste,
défend
etc.
les interventions de l'armée américaine.
Peut-être que ça rejoint certaines aspirations des extrêmes droites européennes, vous voyez.
Et puis un point qui a peut-être plus d'importance du point de vue américain que ce qu'on peut voir ici en Europe, c'est qu'il est hostile à certains traités de libre-échange aux États-Unis qui ont libéralisé le commerce.
Oui, non, par exemple, vous parlez de l'accord de l'ALENA, de l'accord de libre-échange entre le Mexique, avec le Mexique et le Canada, qui n'a pas donné, qui a été au temps de Bill Clinton, du mari de Hillary, mais qui n'a pas produit les résultats. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons un déficit commercial avec la Chine de 353 milliards de dollars. Avec le voisin allemand ici, nous avons un déficit de 75 milliards de dollars. Avec le Mexique, nous avons un déficit de 53 milliards de dollars. Donc, si vous prenez nos 20 partenaires dans le monde, on est à presque 18 sur 20 ou 15 sur 20 avec lesquels on a enregistré des déficits commerciaux considérables. Donc, ce qu'ils disent, c'est que ça veut dire que les traités qui ont été signés ratifiés n'ont pas été des bons traités, qu'on n'a pas su vraiment défendre nos intérêts. C'est pas de la faute des Chinois, ils disent, c'est pas de la faute des Mexicains, c'est notre faute par le fait que nous n'avons pas signé des bons accords.
George Bush parle d'une politique isolationniste.
Oui, c'est comme vous donnez un coup de pied dans la fourmilière, ça fait beaucoup de choses. Il y a un establishment aux États-Unis qui existe. Il y a des gens qui ont été partie prenante dans cet establishment depuis plus de 30 ans maintenant. Arrive quelqu'un qui est un outsider, ce qui plaît d'ailleurs, parce qu'on s'est dit, vous savez, il y a une mistrust, il y a une méfiance à l'égard des politiciens aux États-Unis, tout comme en Europe. Et on se dit, bien, il est nouveau, il arrive, il n'a pas trempé dans les magouilles. Vous voyez ce que je veux dire?
Est-ce que Donald Trump, à la Maison-Blanche, changera les relations entre les États-Unis et l'Europe?
Je ne pense pas. Ce sera un président qui sera pragmatique, qui verra les intérêts des États-Unis, et pourquoi pas, après tout. Vous savez, lorsqu'il parle de l'OTAN, on en a parlé brièvement hier, et ce n'est pas qu'il ne veut pas soutenir l'OTAN, c'est qu'il dit peut-être que cette vieille dame, elle a besoin d'une rénovation. On a besoin d'une nouvelle réflexion. On peut peut-être la transformer. Et puis, il dit aux amis américains, écoutez, vous êtes des grands garçons maintenant. Vous avez quand même... Si vous voulez contribuer, absolument contribuer.
Oui, il estime que les États-Unis contribuent trop au budget de l'OTAN par rapport à ce qu'apportent les autres pays.
C'est exact. Le budget de l'OTAN, puisque ici, nous avons le siège ici, à Bruxelles, c'est 3 milliards de dollars. Okay. Donc, sur ces 3 milliards, 22%, c'est quand même énormes, sont contribués par les États-Unis. Donc, ne serait-ce que pour le budget ici, de ce qui se passe ici, ils souhaiteraient évidemment que les Européens viennent à la rescousse. Prenons le cas du Japon. Le Japon paye 50% de la défense. Pourquoi pas 100%?
Alors, sur l'immigration, discours très très dur, et c'est ce qui a beaucoup occupé la campagne, en tout cas de notre point de vue d'Européens, quand on voit qu'il propose de construire un mur à la frontière mexicaine, de renvoyer les illégaux, ou encore d'interdire l'accès au territoire américain aux musulmans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, je crois pas que il n'interdit pas l'accès aux territoires américains des musulmans. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en France. Et il se dit que puisque la situation c'est vrai, et ça pourrait se produire même en Belgique, est-ce qu'il ne faut pas être beaucoup plus vigilant en ce qui concerne les gens qui entrent sur le territoire américain? C'est pas une question d'un musulman français ou d'un musulman belge.
Mais vous pensez
belge.
Que tous ces points-là, il les appliquera s'il arrivera à la Maison Blanche?
Ah oui, absolument. Absolument.
Vous pensez qu'il va construire un mur avec le Mexique à la frontière?
Ah oui, je pense que oui. D'ailleurs, il l'a dit, puisque comme je vous donne les chiffres, 53 milliards de dollars de déficit avec le Mexique, le mur, il sera payé. Parce que pourquoi? Mais il faut, là encore, il faut bien comprendre. Qu'est-ce qui passe à travers le mur? C'est ce que les gens de l'autre côté ne veulent pas dire. C'est de la drogue, c'est des malfaiteurs, c'est pas des gens bien qui passent, qui traversent.
Mais c'est quand même un discours très proche de celui de l'extrême droite quand on dit ça, non?
C'est un discours de protection des États-Unis. Alors oui, que